Bonjour à tous, nous accueillons ce soir en compagnie de Daniel Wörling, président de la Société d'Astronomie de Nantes, Laurent Nautal, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de Paris-Meudon. Laurent Nautal que vous pourrez retrouver au lieu-dit la salle Bretagne, très précisément si le temps de notre invité ne se courbe pas trop, à 21h dans le cadre des conférences de la SEM. Sans se planter, on ouvre un nouveau chapitre. Juste avant de présenter le thème de votre conférence, Laurent Nautal, je souhaiterais un mot sur un livre déjà ancien à l'échelle du temps bibliographique. Je parlais des arbres de l'évolution, livre paru l'année dernière aux éditions Hachette. Un livre qui réunit trois compétences, un astrophysicien, un paléontologue, Jean Chaline, un économiste, Pierre Groux. Pour illustrer qu'en matière d'analyse des différents domaines, il y a un modèle de bidon ou qui est plaqué, ou on met en évidence des points communs dans ces différentes disciplines?
Bien, ce qu'on voulait faire, c'était effectivement d'essayer de pousser plus loin l'analyse dans trois disciplines qui semblent séparées, mais dans lesquelles, en fait, il y a un certain nombre de problèmes non résolus. Donc la question pour nous, c'était pas d'aller reprendre les choses déjà bien comprises, mais c'était d'aller regarder ces problèmes non résolus et de voir si certains concepts nouveaux, ils ne sont plus si nouveaux que ça, puisque c'est des concepts qui ont maintenant commencé à bien se développer, en particulier dans le domaine de la physique, de la biologie, en particulier ce concept de fractal, si le fait d'introduire les lois fractales, les équations différentielles permettant de décrire ces lois, ne pouvait pas apporter des choses nouvelles dans ces disciplines et montrer effectivement non pas de l'universalité, parce que c'est un mot peut-être un peu trop large, mais des points communs et des solutions communes à partir du moment où les structures abordées correspondent en fait à des structures universelles, enfin à des contraintes physiques. Ce qu'on a plutôt mis en évidence, si vous voulez, c'est le fait que aussi bien dans le domaine de l'évolution des espèces que dans le domaine de l'histoire économique, il y a des contraintes physiques qui viennent tout simplement du fait que l'évolution se passe dans l'espace, dans le temps, fabrique des formes biologiques qui sont contraintes. Et ces contraintes physiques impliquent effectivement des structures. C'est toujours le hasard, mais le hasard se passe dans une structure et on peut aller décrire en partie cette structure.
Daniel ?
Il n'y a pas non plus, en dehors des contraintes qui seraient communes à différents systèmes, dont la logique profonde, ou du moins le croit-on, hein, l'une chimique, l'autre qui répond à l'histoire, etc., dont la logique profonde peut-être être distincte. Est-ce qu'il n'y a pas, en dehors de ces contraintes communes, est-ce qu'il n'y a pas des contraintes des systèmes eux-mêmes qui, à partir d'un certain degré de croissance ou d'histoire, peuvent eux-mêmes engendrer un certain nombre de comportements que l'on va retrouver chez tous les systèmes?
Non, c'est sans doute ça. C'est-à-dire que ce sont des structures auto-générées, sans doute. C'est-à-dire que c'est le système lui-même qui, par son évolution, génère la structure. Absolument. C'est des phénomènes critiques. Hein. Ce qu'on a utilisé, ce sont les lois physiques de ce qu'on appelle les phénomènes critiques.
C'est une espèce de modélisation.
Oui, mais c'est mieux que de la modélisation. C'est vraiment des équations qu'on est capable d'écrire, pas seulement comme un modèle descriptif, mais pas à partir d'une compréhension profonde. C'est dû en particulier à des gens comme Kadanoff, comme Kenneth Wilson. Wilson a le prix Nobel sur ces phénomènes critiques et ce qu'on appelle les équations du groupe de renormalisation appliquées à ces phénomènes critiques. Et c'est ces méthodes-là qu'on a appliquées dans le domaine du vivant et de l'histoire économique. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est précisément de l'appliquer à des crises, mais non pas qui se passent du point de vue dans un espace déphase ou du point de vue de la température, comme on le fait en général en physique, mais tout simplement aux crises dans le temps.
Oui, parce que c'est ça qui est surprenant, puisqu'en fait, là, quand vous parlez d'un système, par exemple l'évolution des espèces, c'est vrai que c'est un système qui n'existe que dans le temps, qui s'inscrit dans la durée. Et c'est dans cette durée que vous voyez, vous, des structures, c'est-à-dire des moments critiques.
Oui, et surtout, ce que je veux dire, c'est que le terme de phénomène critique en physique, c'est beaucoup appliqué, par exemple, aux transitions de phase. Les transitions de phase, c'est par exemple la transformation de l'eau en glace quand la température varie. Et on sait déjà depuis longtemps qu'il y a des lois caractéristiques et en particulier que les différents phénomènes physiques qui décrivent les propriétés de l'eau ou de la glace autour de ce point critique qui est la température, qui est le 0 degré Celsius, eh bien ne dépendent que de la différence de température entre la température et le zéro, et la température critique. Pas de la température en soi, mais de la différence.
C'est ce qui pourrait expliquer les phénomènes de surfusion, par exemple.
Voilà, c'est exactement ça, c'est ce genre de choses-là. Et ce mot phénomène critique est utilisé justement pour décrire des transitions de phase comme ça, où c'est la température qui varie. Mais c'est seulement, à ma connaissance, au moins depuis 1995, que c'est Didier Sornette et ses collaborateurs, le premier qui a eu cette idée-là, d'aller utiliser les lois des phénomènes critiques pour décrire, bizarrement, la chose qu'on appelle crise du point de vue du sens commun. Quand on parle de crise du point de vue du sens commun, c'est une crise qui se passe dans le temps. Là, il y a eu un événement, tout allait bien, puis d'un seul coup, ça va mal, ou l'inverse. Il peut y avoir des crises positives, c'est pas catastrophiste ce qu'on raconte. C'est crise au sens général, un changement, ça change brusquement. Il y a une espèce d'accélération du comportement, puis après, on sort de cette crise. Eh bien, depuis 1995, ces lois qui étaient applicables à des phénomènes critiques dans d'autres domaines commencent à être appliquées à des crises qui se passent sous nos yeux dans le temps, qui sont, par exemple, des sauts majeurs évolutifs, qui sont des crises économiques au niveau, soit des indices boursiers, comme l'a fait Sornette, soit dans ce qu'on a fait nous, dans carrément la description à grande échelle du rythme crise-non-crise, mais depuis le néolithique. On s'est placé à grande échelle.
Ma question était plus simple. Hein. Ce que je demandais, c'est au fond, à partir du moment où on a décidé, où on a envie de voir des fractales partout, on en voit partout. Dans toutes les sciences, dans toutes les choses.
C'est une question piège.
Non, ce n'est pas du tout une question de piège. Je veux dire, le mot fractal, le concept de fractal est un concept très, très clair, très clair, très bien défini, qui est rigoureux mathématiquement. Et donc, on ne peut pas inventer un fractal là où il n'y a pas de fractal. Si, pour savoir si quelque chose est fractal, eh ben, il faut faire des mesures. Il faut par exemple aller regarder le système à des résolutions différentes, avec une dynamique suffisante. C'est-à-dire, il ne suffit pas de le regarder à 1 cm puis à 1,5 cm. Il faut regarder 1 cm, 1 mm, 1 dixième de millimètre, 1 centième de millimètre, au moins facteur 100 ou 1000. Vérifier que les différentes propriétés de l'objet dépendent de l'échelle où on l'a vérifié. Caractériser mathématiquement, avec des dimensions fractales, des dimensions de Hausdorff, des dimensions de lacunarité, etc., les propriétés de cet objet-là, et décider à ce moment-là, il est fractal ou il n'est pas fractal. C'est quelque chose de très rigoureux.
En plus, ce n'est pas ce qu'on appelle une théorie totalitaire, entre guillemets. Ça existe aussi en science, ou ce qu'on appelle aussi des dogmes, quand c'est des domaines plus restreints, où effectivement, le fait de vouloir voir quelque chose, on finit par le voir, c'est ce qu'on appelle les yeux de la foi en science. Mais il y a ça, il y a ce phénomène-là. Mais je crois que d'une part, ça ne serait pas le cas de quelqu'un comme Laurent Nautal, et je crois d'autre part que là, on parle d'un outil et non pas d'une théorie. Donc ce sont encore deux domaines différents. Or l'outil, il faut que ça colle avec une réalité, hein, c'est ce que vous venez de dire.
Tout à fait. Les fractales en tant qu'outils sont utilisés de plus en plus dans un très grand nombre de domaines, avec des résultats efficaces, effectifs. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les personnes qui, sur Internet, sont capables maintenant de transmettre des images, et puis ça ne marche que parce qu'il y a des méthodes de compression fractale. C'est dans la vie de tous les jours qu'ils sont maintenant. Hein. C'est pas seulement... C'est vrai que je pense que Dion vient peut-être du fait que certaines personnes ont aimé ce mot, aimé ce concept, et se sont mis à l'utiliser peut-être d'une manière plus poétique, ce qui n'est pas condamnable. Mais le fait qu'on puisse utiliser le mot fractal comme poétique, Mandelbrot lui-même a montré à quel point, justement, ça peut être très beau, les fractales, ça peut être artistique. Ça n'empêche que derrière ça, il y a bel et bien un concept mathématique très précis.
C'est très beau, parce que j'ai souvenir la première fois que nous sommes rencontrés, hein, vous évoquiez cette idée que vous viviez sur des fractales. Hein, c'était votre schéma de pensée pour les comprendre. Donc c'est très poétique aussi.
Vous avez même fait une introduction fractale, n'est-ce pas, musicale. Oui. Parce que je reviens un petit peu à la musique une seconde, puisque Laurent Nautal nous parlait tout à l'heure des rythmes qu'il mettait en évidence lorsqu'il examine l'évolution des espèces avec son regard théorique. Et quand on parle de rythme, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une structure dans le temps? Et c'est une architecture, on parle bien d'architecture pour les œuvres musicales. Donc en fait, on ramène à ce qui est temporel, à quelque chose de spatial, puisqu'au fond, c'est un petit peu la même chose, je dirais.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'habitude du physicien, et en particulier du physicien relativiste, de travailler dans l'espace-temps, permet de concevoir peut-être plus facilement l'idée d'une structure dans le temps. Effectivement, à force de penser dans l'espace-temps, que la structure soit dans l'espace ou dans le temps, c'est pareil. Je me suis aperçu que pour des personnes qui sont dans d'autres sciences, c'est pas forcément aussi évident, effectivement. Ça paraissait un concept nouveau de dire qu'il y a une structure dans le temps. Mais en fait, c'est
vous savez que physique. Ce que j'ai appris aussi autrefois, c'est que quand Bach avait composé ses suites pour violon seul, en fait, l'idée de certains passages, c'est effectivement, vous savez, le violon fait qu'un son à la fois, enfin, en principe. Hein, et en fait, en faisant des sons qui durent comme ça, qui sont réverbérés, les différents sons qu'on fait successivement finissent par se mélanger et produire des accords verticaux, comme on dit. Hein. Mmh. Et en fait, on recrée bien une structure architecturale.
Oui, mais Bach, c'est le top du top dans le genre.
Oh, c'est un peu le principe musical de travailler effectivement dans une échelle temporelle.
Il a écrit des choses qui semblent impossibles à faire.
Sauf avec une pensée fractale.
Moi, je n'ai pas du Bach en stock, mais j'ai du Mozart. Et du Mozart un peu particulier, puisque c'est une rencontre qui a été proposée il y a quelques années entre le répertoire traditionnel égyptien et les compositions de... Vous connaissez ce...
Mozart l'égyptien.
Mozart ouais. l'égyptien. Il ouais. y a quelque chose de fractal dans ce métissage, non ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est très beau, en tout cas. C'est bon. très beau, très bien vu. Enfin, c'était pas évident, a priori, que ça fonctionne si bien que ça. Mais effectivement,
la musique de Mozart est une musique très lumineuse.
Allez, un petit tour dans les étoiles.
Des Lebens als Freier mit Freund und wie im Elysium sein.
extrait de Mozart, l'Égyptien. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Nautal et de Daniel Wehrling. Laurent Nautal, votre invité ce soir à la salle Le Bretagne, dans le cadre des conférences de la salle. Vous souhaitiez, Daniel, pour en guise d'introduction de cette seconde partie d'émission, revenir un petit peu sur le travail de fond du théoricien.
Absolument, oui. D'abord, je voudrais juste un petit complément. Alors, j'ai trois choses à dire. La première, c'est au sujet de cette merveilleuse musique que nous venons d'entendre. Nous avions une série de réflexions avec Laurent Nautal à l'instant, hors antenne, puisque la musique fonctionne un peu en créant des structures dans le temps, que nous avons un petit peu, c'est le fonctionnement du cerveau, que nous assimilons un peu à des structures spatiales. En tout cas, nous avons une perception architecturale de la musique qui est en fait quelque chose qui fonctionne dans la durée. Alors, c'est très étrange. Et comme disait Laurent, on attend quelquefois quelque chose, on extrapole aussi. Donc, vous voyez que bon, le monde a peut-être, on verra, cette structure fractale générale. On verra si c'est général. La deuxième chose, c'est que je voudrais rapidement représenter. Parce que
vous pensez que sur Alternante, il est besoin de représenter Laurent Nautal, mais on n'arrête pas d'en parler.
Absolument, mais je crois que nous l'avons vu dans d'autres dimensions fractales et que nous allons juste donner un petit complément sur... sur Laurent Nautal, qui est venu, comme tu l'as rappelé plusieurs fois, sous nos étoiles, pourrait-on dire, puisqu'il est venu pour des conférences magistrales sur sa théorie de la relativité d'échelle, dont on va parler tout à l'heure, ainsi qu'à nos rencontres européennes d'astronomie amateur, où il était venu en 1997, où il a apporté, je pourrais dire plus que du sang neuf, une fougue intellectuelle qui n'est pas franchement toujours de mise hein, dans les rencontres d'astronomes, parce qu'on est surtout praticien, et puis là, ce qu'on voulait, c'est instiller un regard nouveau. C'est un peu l'objet même de notre intérêt pour le travail de Laurent Nautal. La troisième chose, et c'est ce qui m'amène effectivement à ce travail du théoricien, je fais juste un petit rappel parce qu'on va l'approfondir. Laurent Nautal, effectivement, fait partie de ces astronomes qu'on peut appeler des théoriciens. Alors, le travail du théoricien, ça n'est pas de la simple, ce n'est pas du tout d'ailleurs, pourrait-on dire, de la virtuosité autour des formules mathématiques ou autres modélisations ou autres formulations. C'est un travail de fond, c'est une réflexion profonde, un regard nouveau sur les choses et le monde. Et c'est l'objet de ma première question, parce qu'avant d'aborder le fond même de cette théorie, c'est de demander à Laurent Nautal comment lui, il perçoit le travail du théoricien. Hein, en quoi ça consiste, ce travail, Laurent ?
Oui, je vais vous parler de ma propre pratique, parce que je pense que ça dépend un petit peu des théoriciens. Là, il n'y a pas de solution unique. Il y a certains théoriciens qui vont passer beaucoup de temps, par exemple, à faire des simulations numériques, enfin, qui vont privilégier, par exemple, le fait d'essayer de faire des codes numériques sur des gros ordinateurs pour essayer de trouver des comportements comme ça, sur, par exemple, sur des échelles de temps qui sont impossibles à acquérir avec d'autres méthodes. Il y a certains théoriciens qui seront plutôt dominés par les mathématiques. Il y a des théoriciens, si vous voulez, qui vont essayer de plus développer l'esprit physique, certains qui vont essayer de s'appuyer sur les structures mathématiques. Certains sont plus... Des physiciens mathématiciens, certains sont plutôt des mathématiciens physiciens, je dirais. Personnellement, ce que j'essaye de faire, c'est d'abord de bien essayer de faire de la théorie, pas pour le plaisir de faire de la théorie, mais pour expliquer des choses. Donc à la base, il y a des problèmes à résoudre.
J'ai juste un petit mot à propos de la mathématicien, physicien. C'est parce que vous êtes astrophysicien, bien sûr. Mais quand on voit le travail des chimistes comme Lavoisier, effectivement, il n'y a pas beaucoup là-dedans de mathématiques, mais il y a surtout une très profonde réflexion. Et lorsqu'on inverse la logique des choses par rapport à ce qui régnait dans le temps, et c'est un petit peu, c'est le même travail. Et c'est je crois, même dans votre domaine, Laurent, qui est celui effectivement de la haute physique et de la haute mathématique. Mais malgré tout, le plus gros du travail, si je puis dire, et le plus important, c'est d'avoir un regard nouveau sur les choses. Hein. C'est peut-être au niveau du concept.
Exactement. Je pense que, enfin, vous l'avez dit comme ça, mais quelque part, il n'y a pas de haute physique et de haute mathématique. C'est-à-dire que tous les pans de la physique sont nécessaires. Et chaque fois qu'il y a des espèces de, comment dire, de jugement de valeur, de comparaison entre physiciens, je pense que c'est illégitime. Vous avez cité Lavoisier, effectivement, mais on peut par exemple comparer Faraday et Maxwell. Faraday était essentiellement expérimentateur, il est vu comme physicien expérimentateur, mais c'était aussi un théoricien au sens où c'est lui qui a conçu l'idée d'unification entre électricité et magnétisme. Bon, après, Ampère, Oersted, mais vraiment Faraday avait presque tout fait.
Et ça n'était pas déductible d'équation.
Hein, mais il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens mathématiques de mettre ça en œuvre. C'est Maxwell qui a repris cette idée, qui lui était un mathématicien extraordinaire en plus du reste, et qui a effectivement écrit ces équations de Maxwell qui sont maintenant à la base de l'électromagnétisme. Mais l'idée fondamentale, tous les éléments étaient déjà là chez Faraday. Alors, dans ce que j'essaie de faire, il s'agit effectivement de bien... C'est un peu garder les pieds dans la boue et puis en même temps la tête dans les concepts et dans les... Essayer de raccrocher, en fait, les données d'observation et d'expérience à des principes premiers. Donc, avoir vraiment toute la chaîne. Pas seulement, vous voyez, à des équations, mais aller jusqu'au niveau des principes premiers. Parce que, personnellement, je pense que c'est ça, effectivement, le travail du théoricien. S'appuyer sur des principes premiers... Développer ces principes premiers en les traduire mathématiquement. Mais à la base, ce sont des principes philosophiques
qui deviennent
des principes physiques, voilà. Qui ensuite se traduisent en axiomes mathématiques, qui ensuite, là, il y a une espèce d'auto-développement des mathématiques qui font qu'il y a une espèce d'efficacité, c'est notre outil. De même qu'un bûcheron qui voudrait couper un arbre avec les mains, il ne serait pas très efficace si jamais il découvre la hache. Il n'a pas besoin d'être très fort avec sa hache, il peut couper l'arbre. Et puis ensuite, un gringalet qui a découvert la tronçonneuse électrique, il le fait encore plus facilement. Donc c'est ça l'idée. On n'est pas des personnes qui travaillent comme ça en l'air. On travaille avec un outil. Il s'agit essentiellement de construire l'outil.
Absolument. On peut poursuivre un peu la comparaison avec la musique. On a effectivement, l'idée musicale n'est pas contenue dans le solfège. Le solfège, par contre, et l'écriture musicale, d'abord est nécessaire à l'expression musicale, mais elle peut elle-même, quelquefois, générer l'idée, mais elle ne génère l'idée toujours que chez ceux qui en ont. Donc, on retrouve un peu ce dialogue entre l'outil et la physique et l'idée. Alors, on va peut-être justement l'aborder, c'est le fond, enfin, la nature même de votre travail, Laurent Nautal, qui porte sur... ça serait un peu réducteur que de dire que vous avez tenté d'unifier la physique, mais en tout cas, vous avez effectivement posé un problème majeur qui est qu'il y a deux mondes en gros de la physique. Hein, pour les rappeler succinctement, il y a le monde de l'infiniment grand qui est dominé par la théorie de la gravitation de Newton qui s'est par la suite améliorée, on pourrait dire, de la relativité avec l'arrivée d'Einstein, Poincaré, la théorie de la relativité, mais qui est essentiellement une physique du mouvement, et dans un monde donc des grands espaces. Et on a deuxièmement le monde de l'infiniment petit, qui est dominé par la mécanique quantique, où là, vous avez souligné dans votre deux livres, qui s'appelle d'ailleurs « La relativité dans tous ses états », dont on reparlera, que là régnait, en fait ce sont des lois axiomatiques, qui étaient des lois, on pourrait dire sur mesure, qui étaient aussi des lois de la mesure, et où manquait cruellement un principe, justement ce que vous aviez dit, un principe unificateur. Et vous pouvez peut-être nous rappeler ce qui vous a conduit justement et à trouver ce principe et lequel, et à l'appliquer au monde de l'infiniment petit.
Alors, tout d'abord, sur le début de la question, en fait, j'essaye pas d'unifier pour unifier. C'est-à-dire qu'à la base, j'essaie de comprendre.
Oui.
Et si la compréhension passe par et implique l'unification, très bien, on est content. Mais il faut admettre que dans de grands cas, la compréhension passe par une désunification. C'est une chose qui est, je trouve, beaucoup oubliée actuellement. Le but et le désir d'unification est devenu comme une espèce de Saint Graal qui éblouit tout le monde et qui fait oublier que dans l'histoire de la physique, c'est vraiment très rare qu'il y ait eu des unifications parce qu'on cherchait l'unification. On cherche à comprendre,
tout à fait.
Effectivement.
Tant qu'on n'a pas une théorie, c'est pas la peine d'en plaquer une qui serait
tout
simplement...
Tout à fait, d'autant plus que, sachant que ce qui bloque en physique, c'est pas les choses unifiées, c'est les choses désunifiées. Ça arrive très très souvent qu'en physique, on ait un seul concept pour quelque chose qui en fait est double. Donc il y a ces deux types d'erreurs qui sont là et qui sont les blocages par rapport à la physique du futur. Il y a le concept qu'on croit être deux choses et qui en fait en est une, et l'inverse. On a un seul mot, un seul concept, un seul outil mathématique pour quelque chose qui est en fait est double et on ne le voit pas. Et si on est dans ces conditions-là, on va chercher à unifier des choses qui ne sont pas sur le même plan. C'est un petit peu le diagnostic que je ferais de la physique actuelle. qui est dans les théories à la mode, et bien on essaie d'unifier la gravitation avec les champs de jauge, ce qu'on appelle les champs de jauge électromagnétiques, interaction forte, interaction faible. Mais personnellement, je considère que ce n'est pas sur le même plan. Et ce n'est pas ça que je vais essayer d'unifier. Moi, j'essaierai d'unifier la gravitation et le quantique.
Et parce qu'en même temps, c'est bien que vous touchiez ce point sensible, unifier ne consiste pas à chercher à réunir d'une façon mathématique, on pourrait dire, des choses qui sont issues de domaines totalement distincts.
Tout à fait.
En fait, ça rejoint notre première question sur le travail du théoricien. On a oublié peut-être de mentionner que la théorie cherche à établir quelque chose qui est au-dessus de ce qui existe. Ça consiste peut-être à anticiper sur une réalité. Et ensuite, bien sûr, il faut vérifier que ce qui existe découle bien de ce nouveau regard.
C'est tout à fait ça. Par exemple, entre les années 1920 et 1950-60, il y a eu des dizaines de théories unificatrices de la gravitation et de l'électromagnétisme qui, en fait, marchaient très bien. Je veux dire, c'était très beau. On retrouvait les équations de Maxwell d'un côté, les équations d'Einstein de l'autre. Mais justement, c'était comme un espèce de collage. Il y avait des structures mathématiques. On trouvait qu'il y avait deux types de structures. On les retrouvait. Et à l'arrivée, il n'y avait rien de nouveau. Ça se reséparait. On avait les deux. Et on n'avait rien gagné. Une authentique unification, c'est autre chose que ça.
Oui, parce que de toute manière, rien de nouveau ne peut émerger de ce qui existe par définition.
Voilà, c'est plutôt un changement de niveau, en fait. Et c'est ça que j'essaie de faire. Vous le disiez tout à l'heure, il y a effectivement ce problème actuellement d'avoir des lois macroscopiques dominées par des lois de type classique, la relativité, la gravitation, etc. Et le microscopique dominé et décrit par une théorie complètement différente qui est la mécanique quantique. Et depuis 70 ans qu'on est dans cette situation, il y a eu des tentatives de déduire les lois quantiques des lois classiques, de déduire les lois classiques des lois quantiques, enfin de les faire communiquer l'une par rapport à l'autre sur le même plan. Ce qu'on essaie de faire avec la relativité d'échelle, c'est un petit peu différent, c'est d'avoir des super lois qui ne soient en elles-mêmes ni quantiques ni classiques, autres, et qui retombent sur le classique ou le quantique suivant l'échelle à laquelle on se classe.
Là, vous avez prononcé le mot de relativité d'échelle, donc si j'ai bien compris, et c'est ce que vous décrivez dans votre livre, en fait, vous appliquez simplement le principe de relativité lui-même, dans son essence, et en abandonnant l'idée de mouvement et de référentiel en mouvement, pour arriver à son principe premier, qui est de considérer la relativité des choses, et cette fois-ci en l'appliquant à des changements d'échelle, et qui vous font effectivement investir à nouveau la physique quantique, la mécanique, par ce biais-là.
Tout à fait, à un détail près, c'est qu'on n'abandonne pas pour autant la relativité du mouvement.
La
relativité, c'est on complète le principe de relativité. Enfin, il y a le principe de relativité dans sa formulation très générale. Les lois de la nature doivent s'appliquer quel que soit l'état du système de coordonnées. Et ensuite, ces systèmes de coordonnées, ben, il va y avoir des manières de plus en plus complexes de caractériser leur état. Et si on veut justement caractériser l'état d'un référentiel, on s'aperçoit qu'on a besoin de définir une origine. Donc il y aurait une relativité de la position. Une orientation, il y aura une relativité des angles, justement de l'orientation des axes. Ensuite, il va falloir caractériser le mouvement de ce système de coordonnées, mouvement qui ne peut être défini que relativement à un autre système de coordonnées. Aussi bien la position que l'orientation, que le mouvement ne sont des grandeurs que relatives, qui ne peuvent pas être définies de manière absolue. Ce sont pas des propriétés d'objets individuels, mais c'est des propriétés de couple, en fait. Le mouvement n'est pas la propriété d'un objet. Mouvement d'un objet n'a pas de sens.
C'est ce que Galilée avait dit, d'ailleurs, dès le départ.
Galilée l'avait vu. Ouais. Malheureusement, on emploie encore le mot vitesse ou le mot position. Du coup, ça nous donne l'impression qu'on peut dire la position d'un objet, la vitesse d'un objet. Ce sont des non-sens absolus. Une interposition ou une intervitesse. Si on avait abandonné le mot position, le mot vitesse, et si on l'avait remplacé, on verrait tout de suite, on ne peut pas dire l'interposition d'un objet. Non, entre deux objets. L'intervitesse entre deux objets. Donc, l'idée là, c'est d'avoir une variable nouvelle d'état du système de coordonnées, qui est l'échelle. Et en particulier, c'est la résolution avec laquelle on étudie un système. Bon, la résolution, c'est tout simplement les traits le plus petit sur une règle, la limite de grossissement d'un microscope, l'énergie maximale atteinte par un accélérateur de particules. Donc, c'est cette grandeur-là va caractériser l'échelle de la même manière que la vitesse caractérise le mouvement. Et changer de résolution, ce sera effectivement faire un changement du système.
Changer de loi. Est-ce que c'est la même chose que, par exemple, si je passe de l'échelle macroscopique où je parle de pression, de volume, et si je passe à l'échelle des molécules et des particules, j'ai parlé d'énergie cinétique des molécules pour décrire la température.
On a là très, très exactement un très bon exemple, justement, d'une transformation du mode de description de, entre théorie physique par un changement d'échelle. C'est ce qui a été vu par Poincaré et Einstein, c'est-à-dire que la thermodynamique est en réalité une théorie macroscopique moyenne, et quand on va vers les petites échelles, on rencontre le mouvement brownien, puis le mouvement moléculaire lui-même individuel. Et donc les choses qu'on appelle température, la température, ça n'est rien d'autre qu'une vitesse d'agitation. Et Poincaré l'a dit dès 1903, dès 1904,
c'est
le mouvement d'agitation qu'on traduit macroscopiquement comme température. Donc là, on a vraiment un exemple, très bonne idée, justement de changement entre théorie physique par un changement d'échelle.
Et ça nous amène effectivement à décrire, parce que pour passer d'une échelle à l'autre, il faut opérer une transformation, il y a bien une relation effectivement entre le microscopique et qui va expliquer le macroscopique, et pour passer de l'un à l'autre, il faut disposer d'équivalences, enfin d'équations qui nous permettent de dire, par exemple, à quelle température correspond une énergie cinétique moyenne donnée.
Oui, c'est ça. Et le fait de dire que c'est de la relativité, ça revient à dire que cette transformation entre les échelles, c'est ça qu'on va essayer de décrire, relève en fait d'une projection. C'est-à-dire quand on regarde le monde à une échelle particulière, eh ben, c'est incomplet, c'est une projection du réel, quel qu'il soit, entre guillemets. Il y a une description plus générale qui contient toutes les échelles à la fois, de la même manière qu'en relativité du mouvement, eh ben, si on se pose la question quelle est notre vitesse, ben, on a toutes les vitesses à la fois par rapport à tous les référentiels possibles, et on va se placer dans un cadre où ceci sera pris en compte.
Donc c'est...
Et ensuite, pour un référentiel donné, il y aura une vitesse particulière, de même pour une expérience donnée, un appareil de mesure particulier va nous mettre à tel résultat.
Ce qui veut dire qu'en fait, votre échelle, elle n'a pas une valeur absolue. C'est une échelle par rapport à un référentiel. Ouais. Donc, on est bien dans la relativité d'échelle. Et maintenant, une petite question. Que viennent... Alors, on vous l'avait déjà expliqué, mais que viennent faire les fractales là-dedans? Est-ce que le changement d'échelle obéit à une logique fractale du monde? Semble-t-il, puisque plus on descend vers l'infiniment petit, plus les lois qui décrivent les phénomènes sont peut-être compliquées. Alors, on a là une loi inverse de ce qui se passe dans un domaine macroscopique, où plus on découpe, hein, on part de l'hypothèse que c'est différentiable, c'est-à-dire plus on découpe, plus c'est simple. Là, plus on découpe, plus on va vers l'infiniment petit, plus c'est compliqué. Donc, c'est peut-être ça qui vous a donné l'idée des fractales?
Un petit peu, mais c'est ça, mais d'une manière un petit peu plus précise que ça. D'une manière plus précise, c'est le raisonnement suivant, c'est que si on regarde, on fait deux mesures, par exemple, de longueur sur cette table, là, ou n'importe où, dans le domaine macroscopique, que je mesure, par exemple, une longueur avec une règle dont les traits minimaux seraient séparés d'un centimètre, donc à résolution de 1 centimètre, puis après 1 millimètre, je trouverais le même résultat, mais plus précis. Donc je trouverais, mettons, 1,10 mètres, plus ou moins 10 centimètres, et puis ensuite j'aurais 1,13, je rajouterais des décimales supplémentaires. Mais le résultat, lui, n'a pas changé. Maintenant, si on fait le même type d'expérience dans le domaine quantique, donc à l'échelle des atomes, alors là, ça change complètement. On fait deux mesures avec deux résolutions différentes d'appareils de mesure, on ne trouve plus du tout le même résultat. On ne va pas retrouver le même résultat avec plus de décimales, le résultat a changé. Donc on se retrouve dans une situation où là, on a une dépendance explicite des résultats de mesure sur la résolution de l'appareil. Et ce que j'ai fait, c'est de dire que cette résolution, ce n'est pas seulement celle de l'appareil, c'est une résolution intrinsèque à la description. Et donc, en réalité, l'organisation même du monde, les grandeurs physiques, dépendent explicitement de l'échelle à laquelle on les regarde. Et ça, c'est la définition des fractales.
C'est ce qui ressort d'ailleurs du principe.
C'est ce qu'on appelle la géométrie fractale, un objet géométrique qui dépend explicitement de la résolution où on le regarde.
Voilà, effectivement, et on retrouve par là effectivement, le principe même d'Eisenberg.
C'est en réfléchissant sur ce principe d'incertitude et en le lisant de la manière que je viens de dire que je me suis aperçu qu'effectivement, ce principe d'incertitude pouvait être vu comme la manifestation d'un fractal.
C'est tout à fait important de rappeler qu'on en a fait souvent un principe d'indéterminisme en disant que les choses, ce n'est pas déterminé, ce n'est pas du tout ça. C'est une théorie de la mesure. C'est-à-dire qu'en fait,
c'est un véritable renversement. Le principe dit d'indétermination devient un principe de parfaite détermination. Là, le résultat de mesure dépend de la résolution.
Exactement,
où on a fait la mesure d'une manière très claire et très bien définie.
Tout à fait, c'est important de le rappeler. Le principe d'incertitude est en fait un principe déterministe.
Il n'est un principe d'incertitude que la lumière des lois classiques. Donc il faut voir l'histoire. Les physiciens habitués aux lois classiques, mais seulement habitués parce qu'elles-mêmes avaient paru bizarres au moment où Newton, par exemple, les avait introduites, hein, une force qui agit à distance. Enfin, il y avait plein de choses qui avaient paru pratiquement magiques. Les gens se sont habitués à ça. Mais quand les lois quantiques sont arrivées, habitués aux lois quantiques, ils se sont mis à dire ah ben, avant c'était déterminé, maintenant ça ne l'est plus. Si on regarde les lois classiques, elles sont encore plus indéterminées que les lois quantiques. Mais simplement, la relation d'incertitude, elle est là macroscopiquement tout autant. Mais on ne la voit pas, parce que nos mesures ne sont pas assez précises, tout simplement.
C'est toujours pareil, c'est dangereux de populariser quelque chose sans la connaissance. On va arriver à...
Et on avance un petit peu dans la présentation de la conférence de ce soir. Si
tout
vous
à fait, puisqu'on arrive, j'en arrive au sujet.
Oui, parce qu'on faut réserver la dernière partie de l'émission pour peut-être avancer un scoop, non ?
Absolument, oui,
bon,
oui.
On y va.
Donc on y va.
On n'a plus que 12 minutes.
C'était tout à fait prévu, mon cher Michel, puisque j'en arrive au thème même de la conférence, qui s'appelle morphogénèse gravitationnelle. Initialement, vous l'aviez d'ailleurs appelé relativité d'échelle et morphogénèse gravitationnelle. Alors effectivement, quand on regarde le monde à travers cette théorie des fractales et surtout cette réorganisation un petit peu des lois actuelles par rapport à un regard relatif des relativités d'échelle. Alors ça vous a conduit à, on en a parlé dans la première partie avec le livre de Chaline, à examiner la structuration de cet univers finalement. Vous en déduisez, donc en appliquant cette fois-ci par un retour extraordinaire de la physique, de la mécanique quantique vers les grandes échelles ou à toutes les échelles, pourrait-on dire, vous appliquez finalement le principe de la mécanique quantique dans son essence, c'est-à-dire l'hétérogénéité, on pourrait dire, de la répartition de la matière. Hein. On a des concentrations, on a des concentrations de vitesse ou de substance, ou de matière en tout cas, qui nous amènent finalement, qui vous amenaient à revoir ce qu'on connaissait déjà, par exemple les systèmes planétaires, les répartitions de champs de vitesse des galaxies, comme obéissant finalement une espèce de physique quantique du macroscopique. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela un peu ?
Tout à fait, mais... Il faut bien être clair sur le fait que ça n'est pas la mécanique quantique des particules élémentaires. C'est une autre mécanique quantique qui se construit sur les mêmes lois fondamentales, mais justement lois fondamentales qui sont ni quantiques ni classiques. On a un niveau de description plus profond.
Voilà, qui ne dépend pas finalement du niveau de...
Voilà, il y a un niveau de description plus profond qui va générer ensuite des lois. Et initialement, c'est vrai que ce travail, je l'avais fait... avec l'idée d'essayer de démontrer l'équation de Schrödinger et de la comprendre à partir d'un principe premier plus profond. Mais un des résultats inattendus, c'est que cette démonstration de l'équation de Schrödinger, qui est l'équation donc fondamentale de la mécanique quantique non relativiste au niveau des atomes, eh bien, cette démonstration fonctionne d'une manière très générale qui fait que les conditions de base qui amènent cette équation de Schrödinger ne sont pas restreintes au domaine microscopique. Il existe dans le domaine macroscopique des conditions particulières, pas partout, hein, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une équation de Schrödinger partout, c'est pareil que tout à l'heure, il n'y a pas des fractales partout, non, il y a certains endroits où il y a des fractales, et ça apparaît sur des conditions très particulières. Et là, pour certains types de conditions très particulières, eh bien, l'équation fondamentale de la dynamique classique se transforme en une équation de Schrödinger. Et donc, on peut utiliser l'outil quantique, un outil statistique, un outil où on va décrire en fait non pas des objets solides, mais plutôt des objets qui sont des sortes d'ondes de densité. Hein. On va avoir des objets qui vont...
On a des concentrations.
Des concentrations, mais les particules individuelles qui fabriquent l'objet, finalement, peuvent entrer ou sortir, mais l'objet reste...
C'est comme les vagues à la surface de l'eau. Quand tu as un bouchon sur l'eau où les vagues passent, le bouchon reste toujours à la même place.
Voilà, là, il y a une onde, mais disons que c'est le cas de la vague, c'est une onde, comment dire, non physique, au sens où, effectivement, le bouchon, lui, ne bouge pas en translation.
Il n'est pas transporté.
Voilà, il n'est pas transporté. La vague, ouais. Alors que là, il s'agit bel et bien du transport de particules. Les particules peuvent entrer ou sortir. Mais si on prend des instantanés de la structure à une époque ou une autre, on verra la même structure, mais qui sera réalisée par des particules différentes.
On peut peut-être préciser que les fameuses équations de Schrödinger, hein, pour ceux qui ont fait un peu de physique...
Il ne faut pas avoir un chat dans la gorge.
Voilà, le chat, le chat de Schrödinger. Elles ont des solutions qu'on appelle les densités, qui définissent des densités de probabilité de choses qui sont des champs de vitesse ou qui sont des matériaux, des particules.
Voilà, c'est-à-dire que ce à quoi on arrive, c'est que en fait, toutes les configurations ne sont pas possibles. Il y a certaines configurations qui sont plus probables que d'autres. Et donc, ces configurations correspondent à des formes particulières. C'est-à-dire que, alors que d'une manière, avec des méthodes ordinaires, on pourrait dire toutes les formes sont possibles. Non, là, on a une espèce de discrétisation de formes possibles. Certaines formes particulières apparaissent comme plus probables que
l'autre. Alors, de dire que le monde obéit, on pourrait dire entre guillemets, aux équations de Schrödinger, alors il y a deux façons de le voir. C'est qu'effectivement, les équations de Schrödinger, enfin les lois physiques fondamentales, si on peut formaliser le monde comme ça, c'est qu'il y a une logique profonde qui explique cela.
Oui, mais il faut voir qu'est-ce que c'est cette logique. C'est très étrange. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quelles sont les conditions qui me permettent d'obtenir justement l'équation de Schrödinger? C'est de dire qu'on ne sait plus rien. Ça se ramène à ça.
C'est plutôt qu'on renonce à décrire...
Je supprime toute l'information possible.
Voilà, j'évite...
Premier type d'information, avant on pouvait dire, je pars dans telle direction, j'ai une position, une vitesse, je vais partir dans telle direction. À la place de ça, je vais dire, je ne sais rien sur la direction. Toutes les directions sont possibles, j'ai une infinité de trajectoires possibles.
Mais je constate que finalement...
Deuxièmement, la deuxième condition, c'est de dire, si je suis à un point... Je me dis, je vais au moins me souvenir de là où j'étais pour aller là. Je vais garder une mémoire sur mon... On parlait de l'impetus tout à l'heure, tous les deux.
Galilée, hein,
pré-galiléenne.
La mémoire du mouvement
intérieur. Que le mouvement est une certaine mémoire de ce qui s'est passé antérieurement et que ça détermine la suite, une espèce de casualité. On abandonne ça aussi. On dit, à tout moment, la particule va aller n'importe où en perdant complètement la mémoire sur ce qui s'est passé après. Et c'est pas encore assez. On va rajouter quelque chose d'encore pire. On va carrément mettre de l'irréversibilité, c'est-à-dire avoir un processus vers le futur et vers le passé qui sont différents. Donc j'ai cassé les choses au niveau des angles, au niveau de l'espace, au niveau du temps. Et quand on fait ça, on prend l'équation fondamentale de la dynamique newtonienne, donc l'équation qui initialement était vraiment l'équation déterministe de base, et cette équation devient l'équation de Schrödinger. C'est pour ça que cette équation de Schrödinger est tellement universelle et tellement large. Ce sera dans tous les cas où on a perdu toute l'information sur le système. Et la chose paradoxale, c'est qu'en disant on perd toute l'information, eh bien on voit apparaître quelque chose, on voit apparaître des structures. On ne sait plus rien sur les trajectoires individuelles, et du coup, on voit apparaître des structures.
C'est à cela que je voulais en arriver, là, justement, voilà. Puisque ça peut s'interpréter comme une tendance du système, une tendance naturelle à former des structures.
Complètement naturelle, spontanée.
Spontanée. Et alors là, on va arriver justement à une des conclusions inattendues ou attendues de votre théorie, c'est que on va retrouver les systèmes planétaires, par exemple le système solaire, ou peut-être on va commencer par autre chose. Vous avez constaté avec, j'ai oublié le nom d'un chercheur américain qui avait, alors la répartition des champs de vitesse de galaxies, il y a des concentrations de champs de vitesse. Voilà.
Oui.
Et donc dans la fuite des galaxies, ça ne se fait pas n'importe comment. On a donc, ça peut expliquer par exemple qu'il y a des espèces de toiles d'araignée de galaxies, d'amas. Et ensuite, les systèmes extrasolaires, et on finira par le système solaire,
5 minutes.
On va annoncer un petit scoop. Oh, ça sera.
On peut le dire.
Oui, on peut le dire.
Donc en fait, pourquoi appliquer ça au système planétaire? Eh bien, tout simplement parce que dans les tout débuts de l'évolution du système solaire, après que le Soleil se soit formé, eh bien, le gaz et les poussières qui venaient de ce globule interstellaire qui s'est condensé se mettent à sécréter, à former ce qu'on appelle les planétésimaux. Les mouvements de ces planétésimaux sont extrêmement chaotiques et on peut attribuer à chacun de ces planétésimaux précisément les conditions dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est totalement impossible de suivre n'importe laquelle de ces trajectoires individuelles de planétésimaux. Du coup, on peut appliquer une équation de Schrödinger à la distribution de ces planétésimaux et on trouve effectivement qu'il va y avoir des zones de densité de probabilité plus grandes. Et c'est là que les planètes vont se former. Résultat, on peut prévoir une distribution plus probable que d'autres pour la distribution des planètes.
Alors avant d'en arriver à ce qu'on pourrait appeler un scoop, effectivement, nous avions, il y a quelque temps, au mois de janvier, reçu Jacques Lascar, qui nous parlait en appliquant les mathématiques du chaos, en décrivant, maintenant on arrive avec les ordinateurs, à simuler l'évolution du système solaire sur des millions d'années, des dizaines de millions, des milliards d'années. On voit tout à fait que rien n'est stable à cette échelle de temps. Mais que, malgré tout, les orbites planétaires se répartissent dans des secteurs. Il y a effectivement des zones plus probables que d'autres. Il y a des zones où il n'y aura jamais de planète. Et ça rejoint un peu ce que vous dites.
Ah, tout à fait. Simplement, avec la méthode de Schrödinger, on est capable d'aller plus loin d'une certaine manière au niveau des contraintes. Ça rajoute des contraintes supplémentaires. Jacques Lascar a effectivement montré que, suivant certaines conditions de la nébuleuse primordiale, on peut tomber sur des lois d'échelle ou bien sur des lois régulières en n carré ou autre, mais sans pouvoir contraindre encore les paramètres qui sont là-dedans. Avec l'équation de Schrödinger, c'est totalement contraint et on a une loi extrêmement simple qui est tout simplement que la vitesse est l'inverse d'un nombre entier. C'est une certaine vitesse fondamentale divisée par un nombre entier. On ne peut pas faire plus simple comme loi. Ça permet de prévoir des orbitales manquantes dans le système solaire très internes Et on commence à avoir des indications qu'il y a bien des objets à ces distances-là.
Donc vous prévoyez carrément la...
Alors, juste, on signale que près des studios d'alternantes, il y a une rue Urbain-Leverrier, une école Urbain-Leverrier. Peut-être qu'il y aura une rue Laurent-Nautal et une école Laurent-Nautal très prochainement.
On ne le lui souhaite pas dans l'immédiat, parce que ça sous-entendrait qu'il est mort, mais on vous le souhaite pour le futur. Leverrier qui avait calculé la position de la planète Neptune.
Voilà. Et vous avez calculé la position d'une nouvelle planète ?
Eh ben c'est un petit peu différent au sens où ce que Leverrier avait fait, c'était d'utiliser la théorie de Newton et les perturbations. Donc c'était une vision indirecte de la position de Neptune. C'est un peu ce que font mes collègues astronomes qui ont vu, entre guillemets, des nouvelles planètes par leur vitesse. Donc la manière dont on voit les exoplanètes, il y en a plus de 50 maintenant, eh bien c'est la méthode Leverrier à la sauce moderne. Moi, je suis plus au niveau de théorie fondamentale. Et effectivement, 5 ans avant que ces exoplanètes soient découvertes, j'ai pu prédire la distance les distances à leur étoile auxquelles elles allaient apparaître. Et il se trouve qu'effectivement, c'est en très bon.
Ce qui fait que vous n'avez pas du tout été étonné par le système de 51 Pégase avec une
grosse
étoile.
Ah non, il était prévu depuis 5 ans déjà, effectivement, par cette théorie. Oui. Avec on prédisait le pic fondamental à 0,043 unités astronomiques. C'est exactement la distance où ça a été trouvé.
Alors vous avez quand même promis un scoop qui est la découverte peut-être d'une prochaine planète dans le système solaire. Avec vous soupçonniez deux orbites qui étaient inoccupées, enfin pour l'instant, inoccupées en tout cas, on n'avait pas encore découvert de planète, l'une qui était à 0,05 unité astronomique, donc c'est très près du Soleil, trop près d'après vous.
Il peut y avoir des poussières là.
Ouais, et une à 27 millions de kilomètres du Soleil. Et vous êtes parti en chasse là avec des...
On a effectivement fait des recherches avec des collègues, Gérard Schumacher, Jean Guay. En fait, ce qu'on attend, c'est plutôt un anneau de petites planètes autour de 0,15, 0,17 unités astronomiques. Il y a pas mal d'indications, en fait, depuis une dizaine d'années, des indications par la dynamique en particulier, qu'il y aurait sans doute un anneau de petites planètes à cette distance-là. C'est pas encore.
Donc, si vous découvrez cette planète ou cet anneau, ça sera.
À ma connaissance, il n'y a pas de scoop encore, au sens où c'est pas découvert.
Vous ayez
des informations.
Je ne vous aurais pas caché, en tout cas.
On va juste rappeler qu'on peut donc vous retrouver ce soir.
Laurent Nautal à 21h, à la salle Bretagne.
Merci.
Conférence de la Société d'Astronomie.
Et puis à la prochaine fois sur Internet, j'espère. Merci.